engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Quatre décennies d'existence, cela mérite bien de belles festivités et des retrouvailles avec ses amis. La Fédération des acteurs de la solidarité Centre-Val de Loire, plus communément appelée FAS, a voulu fêter son anniversaire et a réuni ses partenaires le 16 septembre dernier. C'était à Mer, puis à Tavers, entre Loiret et Loir-et-Cher. Un moment important et symbolique pour cette structure faisant partie du réseau national des FAS. Le président de cette fédération nationale, Pascal Brice, était d'ailleurs présent aux côtés de son homologue régional, Marie-Paul Le Graff-Roman. La FAS Centre-Val de Loire compte 25 associations adhérentes.
Alors les 25, mais ça fait une centaine en fin de compte d'établissements. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est plusieurs milliers de professionnels et puis surtout le nombre de personnes accueillies, accompagnées. Bon, on peut dire que c'est plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers.
Oui.
En tout cas, voilà. En plus, ce sont aussi des bénévoles, hein, donc des bénévoles qui sont dans les conseils d'administration, mais qui aussi accompagnent le travail des professionnels dans le quotidien.
Cette réunion d'anniversaire des 40 ans de la FAS régionale a d'abord pris place dans les locaux d'une association membre, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Lataste à Mer, qui est géré par l'association Emmaüs Solidarité. Puis cela suivit aux ateliers ligétariens à Tavers, une ressourcerie solidaire, avant d'embrayer dans la salle des fêtes pour terminer cette journée. Le choix de ces structures n'a rien d'hasardeux. La FAS a porté un autre nom lors de sa création et en a pris d'autres avant celui que l'on connaît aujourd'hui. Parmi ces appellations, la structure a porté le nom de Fédération de l'hébergement. Elle s'est ensuite emparée des thématiques d'insertion par le travail, puis de la santé et d'autres sujets.
C'est vrai aussi qu'on peut dire que les publics ont beaucoup évolué en 40 ans et que nous avons toujours une population de grands précaires. Donc que les personnes connaissent. Nous avons également des jeunes qui sortent des services d'aide sociale à l'enfance, des femmes victimes de violences, et on sait que ce phénomène a été amplifié ces dernières années, malheureusement. Et puis nous avons eu de plus en plus de migrants, des migrants qui sont venus dans un premier temps de tous les pays en guerre. Donc nous avons eu des accueils d'Afghans, de Syriens, et puis aujourd'hui nous avons des réfugiés qui viennent parce que dans leur pays ils n'ont pas accès donc à ce qui est la base, soit l'alimentation, soit l'éducation, etc. Ou des personnes qui sont aussi persécutées dans leur pays pour leurs idées, pour leur religion, pour leur sexe.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Mer représente une structure majeure au sein du réseau de la Fédération des acteurs de la solidarité. Dans une commune où la précarité ne cesse de croître, selon Vincent Robin, le maire d'hiver gauche de la ville de plus de 6000 habitants, observe cette montée de la précarité au travers des associations qui distribuent des repas dans sa ville.
Il y a quand même de plus en plus de précarité, c'est quelque chose d'important. Nous, on le voit bien sur les associations qui distribuent des repas sur notre ville. Le nombre d'inscrits, de familles inscrites augmente d'année en année aujourd'hui, jusqu'à un point des fois qu'ils ne peuvent plus accepter d'inscription. Donc comme quoi on a des familles qui sont de plus en plus en précarité. Nous sur Mer, on a de nombreux logements sociaux également, ce qui fait qu'on accueille des personnes qui sont souvent dans la précarité. Ce n'est pas le cas de tous, mais certains. Et c'est pour ça qu'on se doit de mettre en place donc une politique d'aide. Nous, on consacre une partie du budget aux aides aux associations et on a décidé donc d'aider financièrement les associations solidaires. On essaye d'apporter un maximum d'aide et on a un CCS très dynamique. Et comme je le disais tout à l'heure, on essaye d'aider les jeunes qui sont accueillis dans ce foyer pour qu'ils puissent participer à un maximum d'activités, pour qu'ils soient intégrés donc dans la commune.
La structure gérée par Emmaüs Solidarité accueille une cinquantaine de personnes et compte aussi un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, ou UDA, qui compte lui 19 places pour accueillir des personnes seules ou en famille.
Il y a une histoire, comme tous les établissements particuliers.
Pierre-Élie Guillermoz, directeur territorial pour Emmaüs Solidarité.
Ici, c'est une sœur qui a créé cet établissement il y a plusieurs dizaines d'années, hein, puisque le site a ouvert, c'était le foyer Lataste, a ouvert dans les années 70. Et le mouvement Emmaüs, il a été donné au mouvement Emmaüs dans les années 2000. Et donc, depuis 2009, c'est un CHRS qui fait partie de l'association Emmaüs Solidarité, et donc qui répond à des besoins de personnes qui sont en situation de précarité, de rupture de parcours, qui se retrouvent dans des situations compliquées par rapport au logement et à l'emploi. Et nous, tout notre travail avec l'équipe de travailleurs sociaux, c'est de les accompagner vers une réinsertion, vers le logement, l'emploi, la santé, mais aussi la culture, la citoyenneté.
Donc bienvenue à Lataste. On va surtout visiter les parties collectives. Parce que là, ça, peut-être on va se diviser en deux. Je sais pas où est la collègue.
Elle est là-bas.
Alors il y aura en deux temps ici, ça va être plutôt sur la partie des activités collectives. Et après, je vous ramènerai sur... on a un UDA et ils expliqueront un petit peu aussi ce qu'ils font. On a vraiment la particularité d'être plutôt sur un milieu rural. Donc on a la chance d'avoir des espaces. Historiquement, on accompagnait surtout des femmes isolées avec des enfants. Et en fait, depuis pratiquement 5 ans, on a ouvert à tout public. Donc, nous, c'est des logements individuels. Quand vous voyez, c'est pour ça que je vous mets ici, parce qu'on n'ira pas voir les personnes. On est quand même conséquent, donc on ne va pas frapper au logement pour aller voir. Mais toute la partie du haut du bâtiment, ce sont des logements individuels. Donc c'est des petits logements, mais du coup, il n'y a pas de cohabitation. Parce que des fois, quand il y a la cohabitation, c'est pas simple à gérer pour les gens qui y vivent, pour les équipes qui gèrent. Donc là, nous, c'est des petits... c'est des petits ensembles, mais on est en milieu rural, donc ça peut se défendre. Et voilà, les gens ici restent à peu près en moyenne de temps de séjour à peu près 18 mois. Voilà. Sur toute la partie bas du bâtiment, on va plutôt être sur des espaces collectifs. Parce que les personnes ici, c'est vrai qu'on a des petits logements et on essaye d'avoir des espaces collectifs pour travailler différents projets. Donc on va aller voir un labo savon qu'on a créé il y a à peu près 3 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai plus les dates en tête. Il y a un espace cuisine, des espaces bureaux et puis des espaces bibliothèque et ludothèque. Ah, on a la chance d'avoir quelqu'un qui était à l'origine du projet.
Voilà, donc bienvenue dans l'atelier savon, dans le laboratoire savon. C'est là qu'on fabrique des savons avec les personnes accueillies. On fait des ateliers régulièrement. Là, ça avait été mis un petit peu entre parenthèses, mais on va reprendre prochainement les ateliers. Donc c'est des ateliers qui ont lieu une fois par mois à peu près. Ça peut être soit que des personnes accueillies, ça peut être aussi un temps entre... référents éducatifs et personnes accueillies, voilà, pour partager un autre moment que les entretiens. Vous pouvez voir que tout est organisé. En fait, la fabrication du savon, ça demande d'être assez précis. On manipule quand même des produits qui peuvent être dangereux. Donc on essaie d'être très rigoureux pour des questions de sécurité et pour respecter les recettes qui ont été homologuées et qui permettent qu'on puisse vendre nos savons.
Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'inclure vraiment les personnes. Donc c'est vrai qu'Ashra, vous avez passé... Alors, c'est bien passé ou pas, cette histoire
Oui, c'est très bien.
C'était très bien. Est-ce que c'était dur?
Oui,
c'était dur. C'est comme une recette...
C'est pareil, comme maintenant, je transpire comme un cochon.
Mais c'est bien de vous mettre en valeur, parce que c'est pas un projet qui est porté que par... des fois, c'est souvent les salariés où on va être plutôt force de projet, mais ce projet, il est beau parce qu'il a été porté autant par des personnes qui sont ici. Alors, vous êtes à la pension de famille, donc vous êtes encore là. Il y a des gens qui étaient en centre d'hébergement qui sont plus là. Heureusement, parce que l'idée, c'est pas de rester ici dans les centres d'hébergement. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça, c'est une belle histoire. Et je trouve que quand, en plus, vous pouvez... Les salariés qui étaient à l'origine du projet sont plus là. Et en fait, ceux qui nous passent le savoir, Ashra fait partie des gens qui peuvent nous passer le savoir.
Soyez les bienvenus. Vous êtes à la CSRS, je pense bien. Nous avons dans la structure des différentes langues. On a le Bangladesh. Et bon, on a plusieurs langues en tout cas. Il y a l'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile à la Lataste.
Bangali, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours de demandeur d'asile? C'est bien ça, vous êtes toujours demandeur d'asile, venu de Côte d'Ivoire pour arriver en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici?
Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, depuis 2017, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour la Tunisie. Bon, je rêvais d'une carrière footballistique, raison pour laquelle c'est ce qui m'a amené en Tunisie d'abord. Bon, arrivé en Tunisie, j'ai essayé de m'intégrer à la société arabe pour avoir mes documents dans les meilleures conditions, mais je n'ai jamais obtenu. Mais compte tenu du mois de février en 2023, il y a eu le propos du président tunisien, donc des subsahariens qui étaient là-bas, qui étaient en danger. Donc on est obligé de quitter la Tunisie par la précipitation.
Il y avait des menaces sur vous, hein?
Exactement. C'était pas moi seul, mais plusieurs subsahariens qui vivaient là. Donc ça a poussé plusieurs personnes, comme mon cas, à prendre le large de la mer pour venir sur l'Italie. De l'Italie, bon, j'avais fait une demande d'asile là-bas, mais j'ai pas voulu rester là-bas parce que la langue, j'ai vu que ça allait trop me fatiguer. Donc, comme je comprenais bien le français, je me suis dit, mais pourquoi pas aller demander l'asile en France pour m'intégrer à la société française et participer à l'évolution aussi de la culture française. Donc, raison pour laquelle, bon, de l'Italie, j'ai passé par la Suisse, je suis arrivé en France et j'ai fait ma demande d'asile. Et j'étais dans la ville d'Orléans. D'Orléans, bon, j'ai fait une demande à la préfecture d'Orléans. Et bon, ma demande a été acceptée. Et c'est comme ça qu'on m'a trouvé un logement à Metz. Et voilà comment je me suis retrouvé à Metz. Bon, moi, j'ai fait du bénévolat sur Orléans, puisque j'étais à Orléans avant d'arriver sur Metz. Donc, j'ai fait du bénévolat là-bas, j'ai fait la coiffure. J'ai 2 jours dans la semaine. Donc, mon quotidien, si les lundis et mercredis, je vais à Orléans pour faire du bénévolat. À part ça, bon, j'essaie de participer au projet mettre en place par les assistants qui nous accompagnent. Donc, je participe aussi à ça. Donc, et j'ai fait un peu du sport avec l'US Metz. Donc, c'est un peu ça. Bon.
Du football, c'est ça?
Du football, exactement.
Vous jouez à quel poste?
Bon, latéral droit. Hein.
c'est bien ça. Les latéraux, on n'en parle pas assez. Ouais, c'est pourtant ça. Super important dans le football.
En tout cas, on en profite de voir beaucoup de choses. Voilà, comme aller au château de Chambord, moi-même, j'étais tellement heureux de voir parce que c'était ma première fois. Donc, en tout cas, des projets qui sont mis en place par les assistants, en tout cas, c'est très important pour les demandeurs d'asile.
Cette visite de Chambord, elle vous a marqué?
Oui, bien sûr, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué par les histoires du château et tout, voilà, par le roi aussi qui était là-bas.
Et donc là, sur les petits cadres, vous avez un petit peu quelques focus des actions que nous avons pu mener en lien avec la FAS notamment Truffaut, il y a eu Jean et Faustin pour une intervention des clowns musiciens. On a eu du coup des petits débrouillards qui sont venus ici et puis voilà, on a fait le festival des Jardins de Chaumont aussi dans le cadre de ce partenariat-là. Après, on a pu faire aussi de nombreuses actions avec les personnes, l'apprentissage vélo, on a fait un apprentissage vélo, on a fait dans le cadre, on a mis en place sur l'année 2025 un projet culturel dans lequel on, en lien avec les personnes, hein, c'est les personnes de l'UDA, c'est eux qui ont décidé les sorties collectives qu'ils souhaitaient. Et donc, il y a eu une sortie au château de Chambord, une sortie à Orléans dans lequel ils ont choisi des lieux qu'ils souhaitaient visiter. Et puis il y a eu justement où on a été voir un spectacle d'improvisation à la guinguette de Baule.
On sait que le quotidien, notamment d'une personne demandeuse d'asile, fait qu'elle n'a pas le droit de travailler, ce qui est l'un des modèles principaux d'insertion. Donc quelle est l'importance, vous qui travaillez dans ce secteur-là, jusqu'à quel point ce type d'activité, ce que vous mettez en place tout au long de l'année et même des années avec les personnes que vous accompagnez, c'est justement important pour cette insertion qui ne peut pas se faire malheureusement par le travail?
Oui, puisque étant donné qu'ils n'ont pas accès au travail, les ressources sont, ils ont l'ADA, et qui l'ADA représente des ressources vraiment très minimes. Du coup, ils n'ont pas forcément accès à la culture. Et nous, notre travail est une partie en tout cas de nos missions est de favoriser l'insertion par la culture. Et donc, on peut solliciter des partenaires que nous avons, tels que Culture du Cœur, qui nous permettent de faire accéder justement au château de Chambord.
Ça, c'est une visite superbe, ça.
Voilà, typiquement. C'est une visite qui nous a permis à la structure d'avoir très peu de frais au final et permettre aux personnes d'accéder à ce type de sortie, puisque ce qui est une réalité, c'est que nous, en termes de l'UDA a très peu de financement aussi, a très peu de budget, et donc voilà, ce type de partenariat nous permet de faire profiter aux personnes, aux demandeurs d'asile, de découvrir la culture locale.
Meaning Marcadier.
Jean-Yves.
Votre parcours, rapidement.
C'est une longue histoire. Je ne vais pas en parler, parce que ça va me faire mal au cœur. Ouais.
Non, vous n'êtes pas obligé d'en parler, hein, si vous...
À l'hôtel. Ouais. Et à l'hôtel, alors, ça nous revenait cher. Donc c'est grâce à l'assistance sociale que. Voilà. Et
puis, par mois, presque 1300 euros pour d'hôtel. Hein.
Et le centre d'accueil du jour qui nous ont trouvé ça. Okay. Donc, voilà.
Bah, parlons plutôt du positif, peut-être, ce que vous avez pu trouver, justement, de positif au sein de ce CHRS. En quoi est-ce que ça vous a aidé?
Très, très sympa. Ouais. Même la directrice.
Et puis voilà, c'est surtout ça. On nous accompagne bien.
Le dentiste.
Non, on parle pas de ça, ça sert à rien à voir.
J'ai envie pour le dentiste, puis pour le l'ophtalmo. Obligé de faire le minimum pour ça. Voilà. Et j'ai avoir un appareil. Ouais. Je prends le choix.
Nous voulons nous aider pour quoi? Moi, déjà, moi, je recherche du travail, déjà, donc...
Ce sont des rendez-vous réguliers avec des personnes? Comment est-ce
oui,
que ça
oui,
se
passe? Oui, bah, tous les mois. Oui, tous les mois, pour faire... Oui, le point, ouais. Voir comment ça se passe, et voilà.
Donc, et à part ça, il y a aussi des activités qui sont proposées, des choses...
On fait de la couture, de l'atelier cartonnage. Demain matin, on va aller au jardin de Cocagne. Voilà, on a fait des visites de château, un peu tout. Il y a beaucoup de trucs, oui.
Marie-Dominique Thomas. J'ai commencé en 1979. Je suis travailleur social, mais de métier, je suis auxiliaire de périculture et aide-soignante. Moi, j'ai vu au fil des années que les situations changent et que, voilà, à tout moment de sa vie, une personne peut être amenée, quand il n'y a pas d'entourage amical, quand il n'y a pas d'entourage familial, à être amenée à passer par le CHRS.
Comment est-ce que ce centre répond à différentes problématiques? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous mettez en place de manière très concrète?
Alors déjà, on fait un accompagnement global, hein, un accompagnement social global. Et puis, on propose aussi des activités culturelles. Hein. Il y a un jardin, il y a un atelier couture, il y a des ateliers cuisine. Voilà, on s'ouvre aussi un atelier, enfin, à l'extérieur, sport. Voilà.
Après la première visite, direction Taver et sa ressourcerie solidaire. Les ateliers L'y jette rien ont été créés en 2016 alors qu'il n'existait pas de ressourcerie dans le secteur et dans l'objectif d'échanger des savoirs, selon Marie-Tiffany Delgado, la directrice. La structure compte 35 salariés, dont environ un tiers de parcours de transition professionnelle, sans compter la soixantaine de bénévoles.
On va faire notre visite, notre parcours habituel. En fait, on fait toujours la visite dans ce sens-là. C'est en fait le parcours de l'objet, c'est-à-dire à partir d'où arrive l'objet et qu'est-ce qu'on en fait en fait. Donc là, vous allez visiter les ateliers vides, puisque nos salariés sont partis à 16h. Alors, vides d'humains, mais pas d'objets, évidemment. Hein. On commence par le premier espace dans lequel on accueille l'objet. C'est la collecte, qu'on appelle collecte 1, parce qu'il y a une autre collecte, je vous expliquerai. Donc la collecte 1, c'est l'espace dans lequel on accueille les donateurs. Donc en fait, ils viennent toutes les 10 minutes, donc tous les matins, du lundi au samedi, toutes les 10 minutes, il y a un dépôt. Les personnes se sont inscrites sur rendez-vous, soit par téléphone, soit sur Internet.
Toute personne peut venir apporter des...
Exactement, à partir du moment où la personne est inscrite. Et du coup, ça nous permet d'accueillir correctement les gens. On a à chaque fois 10 minutes, donc il y a des gens un peu en avance, un peu en retard. Ça permet de réguler. Et surtout, si je parle de la partie insertion, ça nous permet aussi de bloquer des matinées. C'est-à-dire que dès qu'on est en pression par rapport au stock, ça nous permet éventuellement de réguler. Et surtout, ça nous permet, quand on fait des formations... Bah de dire, voilà, si on a une formation qui occupe la moitié de l'équipe, ça veut dire qu'on peut fermer une matinée et ça nous enlève un petit peu de travail sur la partie valorisation. Donc on a maintenu ça, ça a été mis en place pour le Covid, et en fait on l'a maintenu pour ces raisons-là. L'autre système de collecte, c'est des permanences qu'on a en déchetterie, donc on a 4 après-midi de permanence en déchetterie, où là on a un encadrant et 2 salariés qui partent avec le camion 20 mètres cubes avec haillon électrique. Et là, on accueille les dons en déchetterie. Donc les gens, maintenant, ont pris l'habitude, le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi, on est sur 4 sites différents, ce qui nous permet de rendre accessible notre service et ce qui permet aussi de travailler sur la question de la mobilité, l'adaptation du lieu de travail pour les personnes qu'on accompagne. Et donc, dans ce cadre, on a une convention avec la communauté de communes des Terres du Val-de-Loire sur la partie gestion des déchets et formation et emploi. Donc en fait, on accueille les personnes ici avec leur rendez-vous. Et donc les mardis, les lundis, mardis, jeudi et vendredi, c'est les salariés qui accueillent les dons. Et le mercredi et le samedi, c'est les bénévoles. Et donc la première tâche qui leur est confiée, c'est évidemment d'accueillir, mais c'est aussi de commencer à trier. Et donc on a deux niveaux de tri, on a le tri par catégorie, donc là vous voyez qu'il y a les différentes catégories qu'on retrouve dans les magasins, le tri par catégorie des objets, et en dessous vous avez les bacs de tri d'état. C'est-à-dire qu'ici vont être disposées des caisses vides et tous les objets qu'on pense valorisables chez nous sont dans les caisses. Et tout ce qui est considéré comme en mauvais état et qu'on n'aura pas les moyens de valoriser sont mis dans les bacs qui sont en dessous, qui ceux-là sont estampillés par catégorie et par filière de sortie. Donc on verra les filières tout à l'heure. Donc là, en fait, les personnes qui arrivent sur ces postes-là, ils ont déjà fait à minima 2 semaines de travail en atelier. Parce que quand on arrive ici, on est submergé. Submergé d'objets. Alors là, c'est vide, ça a été fait ce matin. Submergé d'objets. Et submergé de la capacité de faire un choix. Parce qu'à chaque objet qu'on prend en main, on doit faire un choix. Est-ce qu'on le garde ou pas? Alors, de quelle catégorie il est? Il y a des objets, des fois, même les encadrants et Adija qui est assistante technique, elle ne sait pas. Hein. Il y a des objets un peu inconnus. Et après, il y a le choix de dire, il est bien rouillé, pas assez rouillé? Il est entier? Il est complet? Ou au contraire, est-ce que c'est des pièces qu'on va pouvoir récupérer pour compléter quelque chose ou d'autre? Donc en fait, s'il n'y a pas eu déjà de travail dans les ateliers pour comprendre par atelier, vous allez voir après, comment on valorise dans chaque catégorie et qu'est-ce qu'on met en rayon, la question d'évaluer si l'objet, on le maintient ou pas comme produit ou comme déchet, ça c'est vraiment compliqué. Et donc Adija, qui est quasiment tous les jours, peut le dire, puisque en tant qu'assistante technique, elle est là pour assister les encadrants et rappeler les consignes plusieurs fois dans la matinée, tous les jours, à l'ensemble de l'équipe. Depuis 2 ans et demi maintenant, on a un logiciel qui nous permet de tracer l'ensemble de ces catégories et de ces poids. On a choisi d'avoir l'ensemble des outils numériques qui sont à la disposition des salariés en entreprise. Donc vous avez un écran tactile, il y a la douchette, il y a la souris et le clavier, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec souris et clavier avant de passer à la douchette ou au tactile, et inversement d'ailleurs. Et imprimante d'étiquettes pour création de code barre pour les produits uniques. Donc les produits uniques, c'est ce qu'on appelle les objets encombrants qui ne sont pas en vrac. Les objets uniques, prix unique à code barre, sont pris en photo avec un identifiant, ce qui nous permet de savoir quand ils sont rentrés, combien de temps ils sont restés dans les ateliers, et ensuite on leur met un prix et ça permet de les passer en caisse. Donc la douchette permet, avec l'imprimante à étiquette, de faire toutes ces manipulations-là, ce qui permet vraiment de tester et de former sur les compétences transférables dans n'importe quelle activité professionnelle, que ce soit du coup sur ces questions-là, logistique, vente, commerce.
Du coup, ça suppose que tout le monde sache lire et écrire.
Alors, l'objectif, c'est d'aller vers. Ouais. L'accompagnement socio-professionnel se fait par des étapes avec des repères. Tous les salariés ne vont pas au même rythme et n'accèdent pas à tous les outils, puisqu'en fait, on s'adapte à leur capacité d'apprentissage et à leur aux freins que ça peut créer en eux. C'est-à-dire que le numérique, il y en a qui sont complètement braqués sur la pratique, sur le rapport à l'objet. Ordinateur. Et donc en fait, l'objectif, c'est de dire, bah, on a plein d'évolutions possibles dans nos ateliers, le numérique en fait partie, mais il y en a plein d'autres. Et donc en fait, c'est de les amener à passer des marches pour qu'à un moment donné, on puisse aller sur l'ordinateur. Après, il y a aussi des projets où il n'y a pas d'ordinateur nécessaire, que dans la vie, ils se débrouillent autrement, mais l'accessibilité du numérique, c'est un vrai sujet sur les questions de la vie quotidienne. Et du coup, c'est, voilà, on évoque avec eux la manière dont on contourne ou dont on se saisit de compétences autres pour pouvoir avancer là-dessus. Derrière vous, vous voyez le magasin. Donc on a deux espaces de vente aujourd'hui. On vous a ouvert que la boutique, mais cet espace-là est aussi accessible à nos clients. Et le magasin rassemble tous les objets qu'on trouve en dehors de la maison, donc qu'il y a dans le grenier, dans le sous-sol, dans la cabane de jardin. Donc c'est les sports et loisirs, le bricolage, les matériaux de construction, donc il y a le vélo, tout ce qui est animalerie, buanderie, etc. Donc tous ces objets-là sont vendus ici. Les médailles pour les associations sportives, quand vous cherchez des médailles, allez dans les ressourceries, on en a plein. Et ça coûte pas très cher. Les coupes aussi, on a plein de coupes. Voilà. Après, il faut trouver la bonne image qui va avec. Est-ce que c'est judo, tennis, etc. Mais sachez, voilà, pour ceux qui sont engagés dans des clubs de sport, que nous en avons et que ça coûte du coup pas trop cher pour les associations. On n'y pense pas. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous emmener dans les ateliers. Alors là, vous êtes passé par les ateliers que moi j'appelle en zone sale, puisqu'en fait, c'est des ateliers qui font du bruit, de la poussière et du gras. Donc il y a toute la partie équipement de la maison, donc enfin, en gros, ce qu'on vend dans le magasin qui va être là sur le premier atelier, l'atelier vélo au fond et ici l'atelier encombrant, donc majoritairement les meubles, mais c'est aussi tous les encombrants qu'il faut coller, poncer, etc., monter. Alors ce qu'il faut que vous sachez, c'est qu'on fait partie des plus grandes ressourceries en France, donc on bénéficie d'une superficie que tout le monde nous envie, hein, parce que les ressourceries peut-être que vous connaissez à Tours, Orléans, bon Vendôme, un peu, ils ont un peu plus d'espace, mais sont sur des surfaces beaucoup plus réduites, donc nous on a de la chance, mais ce qui est aussi un inconvénient.
Vous avez quelle surface alors ?
Alors on a un bâtiment de 3880 m2, l'activité de la ressourcerie correspond à peu près à 2000 m2. Voilà. Donc là, globalement, on est sur des ateliers tenus par les salariés, mais il y a des bénévoles d'activité qui viennent en atelier et qui ont maintenu des activités spécifiques dans les catégories livres, culture, donc musique et film, mercerie et tableau. Plus parce que, et bijoux aussi, on a passé le rayon bijoux, mais il y a aussi l'atelier bijoux qui est tenu par les bénévoles, parce qu'on est vraiment sur des activités qui prennent beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'en fait, vu l'équipe de salariés qu'on avait et la masse de textiles, vaisselle et meubles notamment, qu'il valait mieux qu'on mette l'équipe salariée sur les catégories où il y a du volume et où ça doit tourner, et que les bénévoles fassent des activités plus sur la minutie, etc. Ce qui n'empêche pas, selon les besoins et selon les envies et les capacités ou les besoins d'évaluation de certains salariés, là je parle, de faire des activités très spécifiques, soit avec des bénévoles, soit en autonomie. Par exemple, je vais parler du tri des boutons par couleur. Quand on a des salariés qui ont des problématiques de concentration et qui ont besoin de travailler seuls, c'est le genre d'activité qu'on peut leur donner à voir. Et on travaille toujours sur la question de la quantité et de l'avancée. C'est-à-dire, il y a un moment donné, voilà, regarde tout ce que tu as fait, tu es tout seul à avoir fait ça. Et c'est hyper valorisant. Et quand il y a un bénévole en plus qui vient dire « Oh là là, tu m'as vachement aidé », c'est top. Parce que du coup, la coopération se fait de manière plus ou moins ponctuelle.
Et aujourd'hui, vous avez combien de bénévoles ?
On a 60 bénévoles globalement inscrits, mais comme on en a qui viennent sur les ventes les mercredis, les samedis, d'autres le mardi soir, parce qu'on a un créneau du soir, et puis sinon les après-midi, et puis d'autres bénévoles aussi qui viennent sur des projets particuliers. Donc 60 bénévoles inscrits, 4,5 à 5 équivalents temps plein par an bénévoles. Donc les 35 salariés, c'est une organisation, mais la coopération avec les bénévoles, c'en est une autre. Enfin, c'en est pas une autre. C'est tout est voilà.
C'est aussi une organisation.
C'est une organisation.
Bonjour Moustapha, vous êtes bénévole ici
oui.
Des ateliers digétériens.
J'aime ça. C'est tranquille. J'arrive ici tous les jours, sauf le dimanche.
Vous vendez à la boutique, vous.
Oui, pas encore à la caisse, mais à l'accueil. Pour faire une tour, comme ça, pour les renseignements, etc.
Ok.
Pour vérifier, parce que mercredi et samedi, la boutique, Et l'autre jour, à la magasin là-bas, pour vivre les trucs.
Bonjour Jean-Luc, vous êtes bénévole ici aux ateliers Ligétérien. Alors, expliquez-moi un petit peu ce que vous faites et peut-être aussi votre engagement bénévole. Pourquoi vous engagez ici aux ateliers ?
Je suis aux ateliers Ligétérien depuis l'origine, c'est-à-dire 9 ans. J'étais à la première vente et j'ai fait partie un peu de l'équipe qui a démarré le projet. Alors pourquoi ? Parce que c'est un projet qui nous a intéressés. On souhaitait pouvoir soutenir le territoire, proposer des emplois de réinsertion. Donc ça a été très important et donc c'est ce qui m'a motivé à poursuivre l'aventure aux ateliers Ligétérien. Donc aujourd'hui je suis là aussi, jour de vente, donc je viens être à la disposition des acheteurs, les conseillers ou les aider dans leur choix. J'ai été longtemps au conseil d'administration et je travaille derrière, donc dans les ateliers, où je m'occupe plus particulièrement de trier tout ce qui est CD, DVD et vinyle. Voilà, et de mettre en vente ce qui peut être mis en vente.
Vous aimez tout ce qui est musique alors ?
Il y avait besoin de monde dans cet atelier, donc voilà.
Ok, merci. Il y a combien de bénévoles à peu près ici ?
Il y a une soixantaine de bénévoles. Mm-hmm. Il y en a pratiquement tous les jours, il y a des bénévoles qui viennent travailler dans les ateliers. Mm-hmm. Parce qu'il y a des ateliers qui sont réservés aux bénévoles, d'autres qui sont réservés aux personnes en insertion. Mais il y a quelques ateliers où ce ne sont que des bénévoles qui y travaillent.
D'accord. Et pourquoi justement cette répartition ?
Ça a été un petit peu un choix, en fonction des bénévoles qui étaient attirés par telle ou telle chose. Donc il y a des bénévoles qui s'occupent de l'atelier mercerie. Il y a donc tout ce qui est DVD, etc. Il y a aussi tout ce qui est tableau, cadre, voilà. Et un autre atelier aussi qui s'occupe de refaire des ordinateurs. Donc on retape des ordinateurs qu'on met en vente ensuite.
Il y a des retraités, mais il y a aussi des actifs, il y a aussi des jeunes. Parce que on est lieu d'accueil pour les stages, pour les immersions, on travaille avec les IME. Donc en fait, il y a aussi du bénévolat, plus sous forme de partenariat aussi. Il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas se déplacer et qui font du bénévolat pour les jeux de société, les puzzles. Donc ils repartent avec, ou on leur apporte, ou des bénévoles leur apportent. Et du coup, ils nous testent les jeux de société, la complétude des jeux, les puzzles, etc. Donc voilà, il y a plein de petites missions comme ça qui peuvent se faire vraiment à la mesure des personnes. L'objectif est comme partout, c'est qu'il y ait une compréhension des enjeux, un respect des valeurs, un respect des autres.
Dans une ressourcerie généraliste comme la nôtre, vous trouvez toutes les catégories d'objets que vous trouvez dans la grande distribution. Donc ça va du livre, en passant par le vêtement, la vaisselle, etc., jusqu'au sport, aux loisirs et aux matériaux de construction. Les personnes viennent nous donner les objets qu'ils n'utilisent plus et qui sont encore fonctionnels, en tout cas on l'espère, et c'est ce qu'on trie dans tous les cas, sur l'ensemble des objets. Donc aujourd'hui on est à 234 tonnes à l'année, ce qui fait à peu près 5 tonnes par semaine déposées sur notre site de Tavers ou lors de nos permanences en déchetterie. Et on arrive à un taux de réemploi qui est intéressant, puisqu'aujourd'hui on est à 6% seulement de déchets non utilisables et incinérables ou pas d'ailleurs. Voilà, donc on est à 94% de taux de réemploi ou de recyclage. C'est plutôt une façon de consommer autrement, c'est-à-dire de réfléchir à la question de l'obsolescence, à la question de la surconsommation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un tonnage qui est important. Les gens donnent beaucoup, mais parce qu'ils achètent beaucoup. Et donc, en fait, ce qu'on essaie, nous, de communiquer et de sensibiliser, c'est justement sur la manière de consommer de manière raisonnée. Et donc, les ressourceries, c'est un moyen de consommer de manière raisonnée. Mais c'est aussi un constat qu'on fait tous les jours d'une société qui est très consumériste et qui a du mal quand même à revenir sur la qualité de l'objet, la réparation des objets et le réemploi dans toutes ces dimensions.
Alors, vous faites partie de la Fédération des acteurs de la solidarité, vous aussi, c'est ça ?
Oui, en fait, en tant que directrice des ateliers Ligétériens, je suis administratrice de la FAS régionale.
Cet aspect solidarité, il se manifeste aussi par l'intermédiaire des personnes qui travaillent en votre sein. Il y a un certain nombre d'insertions par l'emploi que vous proposez ?
La ressourcerie, c'est vraiment un support d'activité. Donc après, on a plein d'autres actions et activités périphériques. On travaille sur l'accès à la mobilité, l'accès au numérique. Et effectivement, le fait de donner accès aux objets déjà à prix bas, ça permet d'être plus solidaire et d'avoir une répartition des richesses qui se fait autrement. Et également, sur l'accueil des bénévoles et des salariés en parcours d'insertion, c'est aussi donner la possibilité aux personnes de reprendre confiance en eux, de reprendre de l'estime de soi. Et donc on a une équipe de permanents dont c'est le métier en fait hein, d'accompagner, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie socio-professionnelle. Et du coup les bénévoles peuvent aussi en bénéficier. Donc ça permet d'avoir un lieu où tout type de personnes se retrouvent et peuvent échanger et apporter aux autres. C'est-à-dire que peu importe d'où on vient et quel est notre parcours, mais finalement, on a toujours quelque chose à échanger ou à transmettre. Et l'objectif, c'est vraiment aussi de valoriser les compétences et les parcours et les expériences de vie pour que ce soit utile au collectif. Donc, de la même manière qu'on valorise les objets, bah, on valorise les parcours de vie.
Est-ce que une petite anecdote ou un souvenir ou quelque chose lié justement à l'IGTERIEN que vous auriez envie de nous partager, mais si vous en avez une.
Une anecdote, mais en même temps qui se répète, mais voilà, qui nous fait toujours autant rire, c'est le fait que des bénévoles ou des usagers ou des clients ou même des salariés retrouvent des objets qu'ils ont donnés. Qui se retrouvent en boutique, mais qui ont été donnés par leur conjoint. Et ils disent, attendez, bah, dis donc, cette veste me va bien. Donc là, il y a eu vraiment un retour de personnes adhérentes de l'association, où le monsieur arrive en boutique, essaie la veste, il dit, dis donc, elle me va très très bien. Et sa femme qui est à côté, qui lui dit, bah, écoute, elle a été 20 ans dans ton armoire, je l'ai donnée. Donc si aujourd'hui elle te plaît, il faut la racheter.
Et tout autour des ateliers ligétériens, pendant cette journée, des groupes membres de la FAS tenaient des stands pour évoquer leurs travaux et réflexions. À l'image du collectif Alerte qui travaille sur l'alimentation en général et le gaspillage alimentaire, il proposait aux participants un questionnaire à propos de cette thématique.
Pour faire réfléchir les participants au stand sur ces questions de gaspillage et puis de sécurité sociale alimentaire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour apporter des réponses à cette problématique qui touche presque un Français sur trois aujourd'hui en France. Et puis on a des travaux en cours avec l'Université d'Orléans pour mener une enquête universitaire.
Donc là j'ai à mes côtés une personne qui est en train de répondre aux questions, c'est ça?
Oui.
Comment est-ce que vous vous appelez?
Yves Cyril.
Ça se passe bien le quiz pour l'instant?
Oui, mais sauf que les chiffres sont quand même assez alarmants, quoi. Ouais. Les propositions des chiffres, c'est...
Ouais. Peu importe la réponse, c'est alarmant.
Ouais, c'est ça.
Ok. Entendez, là, sur quelle proportion de Français, par exemple, déclaré fin 2023 ne pas pouvoir manger à sa faim? On a 6, 10, 16, 25%. Ouais, même à 6%, ça serait déjà alarmant.
Oui, même à 6%, ouais. C'est déjà...
Et là, vous tentez le 25% carrément?
Oui.
Ouf. Un quart, ouais, ça ferait... Je sais pas, après, on va bien voir la réponse que vous allez donner.
Bah après, c'est mon avis, parce que je pense que les questions de précarité alimentaire aujourd'hui, ça touche plus de quart de la population française. C'est pour ça que je mets 25%.
Ouais. Okay. Bah, soit, on verra bien effectivement la réponse dans ce cas-là. Ok, donc, quiz. Il y a combien de questions sur ce quiz hein?
12 questions sur gaspillage alimentaire, précarité alimentaire et pistes pour lutter contre la précarité alimentaire.
Je vais peut-être essayer de le faire, moi. Je vais peut-être essayer de le faire moi-même, sinon. Allez, je vais m'enregistrer en train de le faire. Tiens. En moyenne, combien coûte le gaspillage alimentaire par habitant et par an en France? Allez, je vais tenter la plus grosse réponse. On a 10, 50 euros ou 100 euros par habitant. Allez, je vais tenter 100 euros. Combien de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année en France? 1 million, 10 millions, 100 millions. Allez, je vais tenter 10 millions.
C'est correct.
C'est vrai?
Oui.
Oh, magnifique. J'ai deux bonnes réponses pour l'instant. Ah.
100 euros et 10 millions, c'est ça.
Je sais pas si on doit se réjouir d'avoir raison. Et enfin, ça termine ce quiz avec une dernière question. Et vous? Quels sont selon vous les moyens les plus efficaces pour lutter contre la précarité alimentaire? Ouf! Bah alors là, vous avez 4 heures, là, c'est une dissertation.
On a quelques réponses ici.
Ouais, lisons les réponses dans ce cas qui ont été apportées. Alors, plus petite quantité, sondage de la population, légiférer sur la sécurité sociale alimentaire pour tous les précaires. Oui, bah, ça suit finalement la logique de ce qu'on a vu. Faire des colloques sur le territoire. Et au sein des structures, ok. Vous vous appelez Gabrielle, hein, c'est ça à ma gauche, ouais. Donc vous aussi vous êtes de la FAS.
Oui, je suis salariée à la FAS et je suis coordinatrice de la formation et je m'occupe aussi de toute la mission emploi et donc insertion par l'activité économique, le suivi de nos adhérents, l'accompagnement de nos adhérents et puis aussi plus largement des structures de l'insertion par l'activité économique en centre Val-de-Roi. Alors là, on a représenté les différentes thématiques qu'on a travaillées pour la feuille de route régionale pour l'insertion par l'activité économique, qu'on a travaillé avec les autres têtes de réseau de l'insertion par l'activité économique. Et donc voilà, on présente nos thématiques en demandant un peu l'avis des personnes sur ces différentes thématiques. Donc là, par exemple, Florence est tombée...
Donc ouais, une couleur correspond à une thématique, c'est ça ?
Exactement. Donc co-construire une vision territorialisée avec les partenaires locaux.
Alors je relis juste, incluant les enjeux de transition écologique, sociaux, économiques et environnementaux. Ok. Donc on tire cette couleur-là, ok, et ensuite.
Voilà, je vais vous donner ceci. Qu'est-ce qui pourrait faciliter la co-construction dans un territoire ?
Donc ça, c'est la question qui est au verso.
Moi, je dirais que... Alors moi, je suis déléguée du conseil régional des personnes accueillies, accompagnées, donc... J'ai connu la situation de précarité et pauvreté et je ne parle pas en mon nom propre, mais au nom de toutes les personnes en situation de précarité et de pauvreté.
Et c'est le but de ce reportage, hein. Donc vous vous appelez Florence. Hein.
Je m'appelle Florence et je dirais que pour co-construire une vision territorialisée avec les partenaires locaux, laisser la place aux personnes concernées, ne jamais oublier qu'une personne en situation de précarité et de pauvreté, une personne concernée, a comme tout le monde des qualités et des défauts, mais aussi des compétences. Donc les associer dans la construction de projets.
On est tous experts ou expertes de quelque chose.
Voilà, tout à fait. Les associer, comme la FAS sait le faire dans les actions qu'elle mène. Depuis 4 ans au sein de la FAS, je vois dans des structures ou en préfecture des régions, dans des réunions, la place que, je vais citer Véronique Carré, Blandine Grimaldi ou Sophie Broca, La préfète de région laisse à des personnes concernées la possibilité de porter la parole des personnes concernées. Par exemple, je participe aux plénières de la commission régionale de l'hébergement et de l'habitation où, au nom de toutes les personnes en situation de précarité et de pauvreté, j'ai eu l'occasion, devant la ministre du Logement, de parler de l'accès au logement des personnes en situation de précarité et de pauvreté. Et c'est ce que la FAS fait. Elle laisse en fait pleinement la place des personnes concernées dans tout ce travail et les personnes concernées le font bénévolement. Donc au niveau de... Pour répondre à ton jeu, eh ben, laissez la place aux personnes concernées.
Florence, qu'est-ce qu'elle veut m'ajouter, Florence ? La carte postale.
Florence, elle dit qu'il y a les cartes postales avec des boîtes aux lettres. Et en fait, tout le monde ici devrait avoir écrit une carte postale. Au dos, il y a ce que je trouve insupportable et ce que je souhaite. Ouais. Tu peux mettre plusieurs choses.
Et qu'est-ce que vous avez rempli, vous ?
Ah ben moi, j'ai mis les deux.
Ouais. Et vous avez mis quoi dans ce que je souhaite et dans ce que je trouve insupportable ?
Le nombre d'enfants à la rue. Le droit à l'alimentation, le manque de droit au logement, l'accès aux soins, la réduction des financements des associations. Ce que je souhaite, une réelle existence de la sécurité sociale de l'alimentation. Moi, je rencontre des personnes qui, et je me rappelle de telles personnes âgées que je vais avoir rencontrées dans le rayon des moins 25 ou moins 30% magasin, qui me disent, est-ce que vous pouvez regarder, madame, s'il y a de la viande à moins 30%. Je la regarde, elle me dit, je ne mange de la viande qu'une fois par mois. Je lui dis quoi ? Je me souviens de cette étudiante qui s'appelle Jeanne, que j'ai vue stagiaire, qui me dit un jour, si tu savais, Florence, qui m'explique que s'il n'y avait pas les parents, son copain, l'aide alimentaire aux étudiants, elle n'étudierait pas. Dans quelques années, ce sera un travail social. Que des étudiants peinent à ce point à faire leurs études alors qu'ils sont la future force vive parce que c'est eux qui vont travailler, elle est belle la France. Hein. Non, elle n'est pas vraiment belle. Mais donc c'est tout ça que je mets dans ce que je souhaite. Un monde plus égal, plus égalitaire. Un monde où on ne souffrira pas de la faim. Un monde où on a le droit au logement est inscrit devrait être inscrit dans la Constitution. Et en fait, combien de gens sont à la rue ? Combien de gens attendent des années pour avoir un logement ? Cette parole-là, je l'ai portée devant la ministre du Logement et devant Madame Broca. Et ce que je souhaite, c'est un réel droit au logement, un réel accès à la santé, un réel droit à l'alimentation. On nous parle de sécurité sociale à l'alimentation. J'y croirais quand je la verrais inscrite dans une loi de la République. Voilà. Donc en fait, je ne vais pas dire que je suis utopique, Mais ce que je souhaite, c'est plus de justice, en fait. Plus de justice au niveau de l'accès aux soins, plus de justice au niveau de l'accès à l'alimentation, plus de justice au niveau de l'accès, l'accès aux droits, au logement. Plus de justice.
En soirée, tout ce beau monde s'est réuni dans la salle des fêtes de Tavers pour une série de discours, ainsi qu'une émission en direct sur Radio Campus Orléans. Le président du conseil régional, François Bonneau, avait fait le déplacement pour saluer les acteurs de la FAS. Le président de la Fédération nationale, Pascal Brice, s'était aussi déplacé et a suivi l'intégralité de la journée aux côtés de son homologue régional. Le dirigeant a vanté l'ancrage territorial de la FAS Centre-Val de Loire.
Vous le voyez bien, quand on est auprès des personnes à la rue, dans l'hébergement, vers l'emploi, il faut être au plus près d'elles, de leur lieu de vie, dans les communes. Et ça, c'est l'une des forces de cette fédération, que d'être vraiment où nous sommes ici à Tavers, nous étions à l'Herbilly, vous pouvez aller à Orléans, vous pouvez aller à Blois, vous pouvez aller à Bourges. Et cette fédération est représentée un peu partout. L'autre force de notre fédération en Centre-Val de Loire, c'est d'avoir eu le talent de mettre en évidence et en mobilisation les personnes qui sont accompagnées dans nos structures, ce que nous appelons dans notre jargon la participation des personnes concernées. C'est-à-dire que l'idée qu'au fond, ce sont celles et ceux qui sont dans la pauvreté et la précarité qui savent le mieux en parler, et c'est à partir d'elles que nous essayons de construire des propositions d'améliorer les dispositifs d'accueil.
Un beau tableau, mais qui pourrait être terni par les prises de décisions politiques récentes. La Fédération des acteurs de la solidarité, à l'image d'autres acteurs du monde associatif, s'émeut des restrictions budgétaires et d'une certaine remise en question du rôle des associations dans la société.
Mais c'est que ce que l'on ressent, ce que nous vivons, ce que subissent les personnes accompagnées, les associations, que ce soit les professionnels ou les bénévoles, mais aussi les élus, j'en suis convaincu, c'est un raidissement. Un raidissement de la société, ne nous leurrons pas. Ça n'est pas quelque chose qui est seulement, ça l'est beaucoup et massivement instrumentalisé par des médias ou des partis politiques qui utilisent ça pour vendre leur sauce, mais pas seulement. Il y a quelque chose qui relève d'un raidissement. Et ce raidissement, je le vois aussi du côté des pouvoirs publics. Et je le redis, comme j'ai commencé à le dire, moi j'en appelle à cette forme de capacité à construire ensemble. Une forme de pragmatisme, c'était un gros mot le pragmatisme, mais je pense que plus on va vers des formes de raidissement idéologique, plus ça va devenir une qualité. Et notamment, je veux saluer à nouveau l'action des représentants de l'État dans une région comme celle-ci, qui font preuve de cette capacité et dont nous avons besoin à être au plus près de la vie des personnes. Et c'est le rôle de notre fédération, 40 ans. Nous allons fêter les 70 ans de la Fédération nationale, une fédération qui est là, qui est l'émanation des personnes accompagnées, des travailleurs sociaux, des travailleurs sociales, des bénévoles, et qui est là pour continuer à faire avancer la solidarité dans un lieu comme celui-ci, à partir d'un lieu comme celui-ci, à partir de vous toutes et tous, dans un moment qui est ce moment de raidissement et qui exige de notre part à la fois une certaine fermeté sur les valeurs. Il y a des choses dont nous ne bougerons pas. La dignité des hommes et des femmes, nous n'en bougerons pas. On ne nous fera jamais avaler que quelqu'un doit être exclu parce que sa couleur de peau, sa religion, ou sa nationalité, ou son sexe, ou son orientation sexuelle, ou quoi que ce soit, le mériterait. Jamais. Et dans le même temps, une capacité à sentir, à être lucide sur ce qui travaille la société, sur ce qui fait que ce qui se passe dans cette ville doit continuer à se passer partout, alors que c'est menacé. Nous devons être à la fois actifs, lucides, mobilisés. 40 années, eh bien, ça nous laisse 40 années, belles années devant nous, Marie-Paul, pour poursuivre.
Véronique Carré, directrice régionale de la DRETS. Donc, c'est tout le secteur économie, emploi, travail, solidarité et concurrence et fraude.
Le président national de la FAS, on l'a entendu tout à l'heure en discours, a relaté une véritable inquiétude aussi du milieu par rapport à toutes les logiques de solidarité. Évidemment, il y a les questions de financement, vous l'aviez vous-même dit dans votre discours, vous ne pouvez pas vous prononcer sur le budget 2026, mais en gros, voilà, cette inquiétude, elle est entendue, ressentie, comment est-ce qu'on peut y répondre ?
Alors, effectivement, un contexte économique et financier qui peut être compliqué au jour d'aujourd'hui, malgré tout, en 2025, l'État était présent, notamment au Centre-Val de Loire, puisqu'on a pu augmenter notre parc d'hébergement d'urgence de 100 places. On sait que le baromètre face
ou d'autres enquêtes qui sont faites par les associations ou des collectivités montrent qu'il y a encore des personnes à la rue dans notre région. On essaye de faire ce travail de fluidité, donc de l'hébergement d'urgence vers le parc social. On travaille avec les associations, avec les collectivités, avec les services de l'État. Et on commence à voir des petits signes positifs. Donc c'est aussi ce qui compte, c'est accompagner ces personnes vers du logement un peu plus pérenne, vers l'emploi, ou les orienter vers d'autres structures s'il y a besoin, type pension de famille ou autre. Donc ça, c'est le point plus hébergement d'urgence. Sur l'aide alimentaire, on travaille avec le Mieux Manger pour Tous, un appel à projet, mais aussi l'appui des associations qui fournissent les repas, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire ou autre. Donc on essaye vraiment de travailler ce partenariat et ce « on est ensemble », comme le disait un peu le président de la FAS, d'ailleurs, Brice, travaillons ensemble et on arrivera à plus de choses en coordonnant nos actions et en se disant que agir, c'est pour le bien de tous et pour tout le monde. En représentation de la préfète de région, bien sûr, c'est important qu'on puisse être là puisque c'est une association... entre autres avec laquelle on travaille beaucoup sur le secteur de la solidarité, donc tout ce qui est hébergement d'urgence, mais aussi tout ce qui est aide alimentaire, le logement, l'accès aux droits, mais aussi tout ce qui est insertion et emploi, puisque au travers de la FAS, on a travaillé une feuille de route pour l'insertion par l'activité économique. Il y a des actions qui sont portées en termes de levée des freins aussi, je pense notamment à la mobilité, ou qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble en place, y compris en faisant témoigner les personnes qui sont accueillies. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que grâce à la FAS ou d'autres associations, on peut avoir une vision réelle du besoin dans les territoires avec les personnes qui sont accompagnées.
Dans le moment dans lequel nous sommes, il nous faut à la fois continuer à coopérer avec les pouvoirs publics, parce que la particularité française, vous le savez, c'est que c'est toutes ces politiques de solidarité, ces politiques sociales, là, elles se mettent en œuvre sur des financements de l'État en ayant beaucoup recours au monde associatif. Donc ce partenariat-là, cette construction-là, c'est une vieille histoire, bien, et qui continue pour l'essentiel à bien fonctionner, y compris dans notre région. Il y a de très bons rapports, la commissaire à la pauvreté, les responsables de l'État nous ont accompagnés toute la journée. Et ça reste très précieux. Il faut redire que nous sommes dans un pays où à la fois les protections sont nombreuses, on redistribue beaucoup l'impôt vers les personnes qui sont les plus en difficulté. Mais vous le savez, la pauvreté n'a jamais été aussi élevée en France depuis 40 ans. Dans votre région, moi je suis frappé de voir à chaque fois que j'y reviens, que vous avez une situation le plus souvent où il y a assez peu de chômage. Mais en réalité, vous avez des personnes qui sont en situation difficile et ça s'aggrave. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que nous voyons ? Une dégradation, c'est vrai, des politiques de solidarité. C'est le repli budgétaire, faut faire des économies. Ce que je crois nécessaire par ailleurs, mais enfin les faire sur les personnes les plus fragiles, ça me paraît un peu bizarre.
Oui, quel choix fait-on
Voilà, donc ça c'est une question de choix. Et nous disons, non, c'est pas aux plus pauvres, aux plus fragiles et aux associations qui les accompagnent d'en payer les conséquences. Et puis on voit bien s'installer un peu partout, dans votre région, mais partout en France, un discours qui est même plus une petite musique, qui est de gros tintamarre, qui est de dire, le pays a des difficultés qui sont réelles, notamment les gens qui bossent. Et puis alors, il y en a qui ne bossent pas, c'est de leur faute, et les étrangers, c'est de leur faute. Et tout ça, nous voyons bien que ça nous mène collectivement à l'erreur. Et donc, c'est vrai que du point de vue des politiques publiques, nous sommes toujours dans la coopération, travailler avec les pouvoirs publics, parce que nos associations fonctionnent beaucoup sur des financements publics, donc ça, nous allons continuer. Mais nous allons continuer aussi, de plus en plus, à dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter, d'abord parce qu'elles sont contraires au droit. Quand parfois, certains préfets, pas tellement dans votre région, encore que dans certains départements ça s'est produit, disent aux associations, ces gens-là vous les mettez dehors alors que ça ne correspond absolument pas aux principes du droit et aux principes les plus fondamentaux, eh bien nous allons continuer à dire non. Donc c'est à la fois être coopératif, ouvert dans la discussion, mais aussi marquer qu'il y a des choses que nous ne pourrons pas accepter.
Ouais, être intransigeant sur les principes, c'est ce que vous dites.
Sur les valeurs.
Sur les valeurs, oui. Marie-Paul, est-ce que vous souhaitez aussi justement ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit par Pascal ?
Je crois que ce qui est important dans la période, c'est vraiment d'essayer de travailler avec dans l'écosystème et dans l'écosystème de la solidarité. Et on a les pouvoirs publics, on a les élus.
Est-ce qu'au niveau local, ça a l'air de fonctionner davantage qu'au niveau national?
On a la chance d'avoir des personnes qui ont une ouverture. Après, ce n'est pas le cas sur tous les départements de la région Centre-Val de Loire, mais sur le plus grand nombre. Et puis, on l'a vu aujourd'hui, on a eu des élus présents, et c'est très important de travailler avec les élus, qu'ils soient des élus municipaux, régionaux. Et puis, on a eu l'exemple du directeur de la fondation, de Dieter Truffaut, qui est venu nous offrir un arbre. Et là aussi, il faut qu'on travaille de plus en plus avec le monde de l'entreprise. Il n'y a pas d'opposition donc entre le monde associatif et le monde de l'entreprise. Et il faut au contraire qu'on apprenne à aller vers le monde de l'entreprise. C'est ce qui se fait déjà par l'insertion, par l'activité économique. Mais dans l'insertion, c'est d'accompagner les personnes pour qu'ils aillent vers un emploi durable. C'est extrêmement important de travailler avec les petites, les moyennes entreprises qui sont sur nos territoires.
Pascal, j'avais envie d'ajouter un élément que je crois important pour vos auditeurs et vos auditrices. On l'a bien senti, peut-être que vous l'avez senti, vous le rendrez peut-être dans vos reportages. Les lieux d'hébergement où nous étions d'insertion par l'activité économique aujourd'hui à Taver ou à Airbnb, ce sont des lieux apaisés. Ce sont des lieux tranquilles.
Ça, les gens qu'on a rencontrés nous l'ont bien signifié. Oui.
N'est-ce pas ? Et grâce aux élus, aux maires qui étaient là, aux habitants qui viennent donner un coup de main, aux personnes, aux travailleurs sociaux. Donc, dans un moment de la société française, et je crois qu'on entend bien, on sent bien ça, que beaucoup d'entre nous sont dans la conviction que la société est de plus en plus violente, que c'est compliqué, qu'il y a des situations pénibles, eh bien, nos acteurs de la solidarité, nos associations, avec les élus, avec les travailleurs sociaux, sont un facteur d'apaisement. Voilà. Dans un moment où beaucoup de gens se posent des questions, pour une part légitimes, sur qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent pour la solidarité, eh bien, nous disons qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais que c'est d'abord un facteur d'apaisement de la société.
La Fédération des acteurs de la solidarité fait d'ailleurs partie des organisations appelant à une mobilisation massive du monde associatif. Une mobilisation appelée « Ça ne tient plus » et qui est prévue pour le lundi 11 octobre. Après la joie d'une belle fête d'anniversaire viendra donc la mobilisation et la combativité pour défendre les conquis de ces 40 ans. Mais en attendant, on va bien profiter du gâteau d'anniversaire et souffler ces belles bougies. Bon anniversaire, la face.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop,